Bonjour tout le monde. Ouais, mais génial. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on vous a dit le sujet de l'étude? Non, on vous a pas dit? Qu'est-ce que t'as affiché? Exactement. C'est-à-dire, comme tout le monde parle en ce moment de la Teshuvah, le mois des Loul, Rosh Hashanah, Kippour, etc., je me suis dit, vous en avez marre. Alors, j'ai pensé parler d'un sujet plutôt bon, bien connu, mais enfin qui a besoin d'être explicité. C'est les rapports entre la science et la Torah. Si vous avez certainement entendu parler, je pense que la plupart d'entre vous se sont intéressés à la question sous un angle ou un autre, et je pense que ça fait quand même du bien de faire un parcours de la problématique des rapports entre la science et la Torah, parce qu'on dit, les Tzahari arabes ont dit beaucoup de bêtises autour de ça, et donc je vais devoir mettre un peu d'ordre. Je vous préviens tout de suite, je risque de dire des choses qui ne seront pas admises par tout le monde. Hein? Vous n'en voulez pas? Admises par tout le monde. Mais ça, c'est toujours comme ça. On a toujours des opinions qui ne sont pas admises par les autres. Donc, ne m'en voulez pas. Vous pouvez, à la limite, me lapider à la fin du cours, mais je vais partir. Bon, tout d'abord, parlons du thème lui-même. Quand on parle de la science et de la Torah, de quoi parle-t-on? Il y a beaucoup de malentendus, parce qu'il y a un manque de définition. On ne définit pas quel est l'objet de la science, quel est le contenu de la science, et puis quel est l'objet de la Torah et le contenu de la Torah. Il est tout à fait possible que de nombreux malentendus seraient évités dès le départ si on expliquait dès le départ de quoi il s'agit. Et je vais vous présenter, enfin, relativement rapidement, et de manière un peu schématique, six approches différentes du problème. Six approches différentes. Et non seulement ce n'est pas facile de retenir six, mais en plus, vous allez avoir une interro à la fin du cours, et qui sera notée, et donc vous avez intérêt à bien écouter. De quoi s'agit-il? Les six approches se divisent en deux parties. Les cinq premières et la sixième. Les cinq premières ont de commun qu'elles sont, à mon avis, fausses. Et la sixième a cela de particulier qu'elle est vraie. Voilà. Donc je mets les cartes sur table. Nous allons donc étudier six approches différentes. Cinq premières qui, selon mon humble opinion, enfin ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion des enseignements de nos maîtres, elles sont en fait erronées et c'est la sixième qui est vraie. Mais enfin, quand je dis que les cinq premières sont fausses, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des éléments de vérité. Parce que, quand même, il faut donner de respect aux maîtres, à nos maîtres qui ont parfois formulé telle ou telle opinion. Mais enfin, comme disaient nos maîtres également, la vérité est encore plus chère que tout. Ha emet, ha ahuva mikol. C'est la vérité qui, pour nous, est l'essentiel. Maintenant, pour ce qui est des cinq premières dont je vous ai dit, peut-être un peu imprudemment, qu'elles sont fausses, elles se divisent elles-mêmes en deux parties. Les quatre premières et la cinquième. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, enfin très bientôt vous allez comprendre pourquoi, les quatre premières, shalom, qu'est-ce qu'il fait là? Travail? Ouais. Les quatre premières ont un dénominateur commun qui est différent de la cinquième. Voilà. Alors, vous avez tout bien compris? 6 qui sont 5 et 1, les 5 qui sont 4 et 1. Super. Voilà, voilà. Très bien. Non, c'est important, vous pouvez prendre des notes, parce que ça, après, ça vaut pour le bac. Bon, nous allons donc présenter cela de manière très schématique. Je sais qu'il y a des nuances, mais ça permet de se rappeler. La première opinion consiste à dire la chose suivante. Il y a opposition entre la science et la Torah. Disons, pour simplifier les choses, nous allons prendre deux sujets. L'âge du monde et l'origine de la vie. Je sais qu'il y a encore d'autres sujets, mais enfin, l'âge du monde et l'origine de la vie. Ceux qui disent, alors d'après cette explication-là, la science affirme donc que le monde a pour âge 15 milliards d'années, tandis que la Torah affirmerait qu'il y aurait 5760, bientôt 7 ans. Et selon la science, d'après cette explication-là, l'homme serait originaire, aurait son ascendance dans un singe ou quelque chose de semblable, Tandis que d'après la Torah, eh bien, l'homme serait formé à partir d'un morceau de boue. Et donc, il y aurait donc opposition entre la science et la Torah. Donc d'après cette première opinion, il y a opposition entre la science et la Torah. La conclusion de cette opinion est la suivante. Étant donné que la Torah est vraie, c'est donc que la science est fausse. Est-ce que c'est démontrable ou pas? Peu importe, nous savons que la Torah est vraie. Et donc, ça prouve que les scientifiques disent n'importe quoi. Ça, c'est la première opinion. Jusque-là, vous avez suivi? Bon. La deuxième opinion dit exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Ça, c'est l'opinion des philosophes positivistes, tels que Auguste Comte et des autres, qui disent « La science et la Torah s'opposent. Étant donné que la science est vraie, conclusion, c'est la Torah qui est... Ah. » Non. Ils disent ça. Que la Torah est fausse, puisque c'est scientifiquement prouvé que la Torah s'est trompée. Vous voyez donc que les deux premières opinions sont exactement, ont les mêmes prémices, mais avec une conclusion différente. D'accord ?
Comment ils prouvent que la Torah est vraie ?
Ben, puisque la science est vraie, et que la science contredit la Torah, donc c'est la Torah qui est fausse, et c'est la science qui est vraie. C'est une question d'option, vous comprenez ? C'est-à-dire, ceux qui considèrent que la Torah est vraie, considèrent donc que par conséquent, puisque c'est en opposition avec la science, c'est la science qui est fausse, et les autres disent le contraire, étant donné que c'est la science qui est vraie, donc la Torah qui est fausse. Voilà, c'est tout bête, hein ? C'est simple. Voilà, ça c'est les deux premières opinions. Quel est le dénominateur commun des deux premières opinions? Comment? Ce sont des antithèses qui considèrent donc qu'il y a opposition entre la science et la Torah. Voilà. Bon. Maintenant, nous allons passer très rapidement à la troisième et la quatrième opinion. La troisième opinion considère qu'il n'y a pas de contradiction entre la science et la Torah. Comment? Non, non, non. Non, pas du tout. Là, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Non. Vous avez manqué la flèche. La troisième opinion considère que la Torah et la science sont d'accord. Et donc, mais dans quel sens? Dans ce sens que la Torah admet les opinions des scientifiques. Et donc, vous aurez, par exemple, chez les auteurs de cette troisième opinion, on amènera des midrashim ou des textes de Kabbalah qui prouvent que le monde, d'après la Torah, est vieux de plusieurs milliards d'années. Il y a des textes qui vont dans ce sens. Et puis, on amènera également des midrashim qui affirmeront que l'homme est originaire d'un animal ancien, par exemple le fameux midrash dans Bereshit Rabba qui dit que le premier homme avait une queue, etc. D'accord ? Donc, d'après cette troisième opinion, il n'y a pas de contradiction, il y a accord à Shalom. Il y a accord entre la Torah et la science, dans ce sens où la Torah admet les thèses de la science. Voilà, ça c'est la troisième opinion. Vous avez compris pourquoi c'est pas exactement comme vous avez dit? Bon. La quatrième opinion, devinez tout de suite. Allez, allez.
La Torah est vraie, la science confirme que la Torah est vraie.
Oui, exactement. C'est-à-dire que la science et la Torah sont d'accord, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut scientifiquement prouver que l'homme ne vient pas du singe. Par exemple, on amènera toutes les difficultés qu'il y a à admettre la théorie de l'évolution. Et on prouvera également scientifiquement que le monde est vieux de simplement un peu moins de 6000 ans. Voilà. D'accord ? Vous avez également des textes de ce genre qui disent que c'est une erreur scientifique de considérer que le Big Bang a eu lieu il y a 15 milliards d'années. Scientifiquement, c'est le contraire qui est vrai, etc. Voilà. D'accord ? Vous avez donc des interprétations dans un sens et dans l'autre. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un dénominateur commun entre la troisième et la quatrième opinion ? Que les deux admettent qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a accord entre la science et la Torah. D'accord ? Alors que les deux premières considèrent qu'il y a opposition entre la science et la Torah, et donc je dois choisir ou la science ou la Torah, d'après la troisième et la quatrième opinion, en fait, la Torah et la science ne se contredisent pas, elles disent la même chose, soit dans un sens, soit dans dans l'autre. Voilà. Y a-t-il des questions jusqu'à présent ?
Est-ce que, oui, est-ce que dans la Torah, les années sont les mêmes que... Est-ce qu'une année, c'est vraiment une année avec 360 ?
Ah, alors dans ce cas-là, votre question suppose la troisième opinion. Vous allez dans le sens de la troisième opinion. C'est-à-dire que si les années dont parle la Torah sont des milliards d'années, alors tout s'arrange. D'accord ? Donc, ça veut donc dire que quand les scientifiques ont parlé de milliards d'années, eh bien, ils ont raison. Et quand la Torah parle d'années tout court, en fait, elle parle d'autre chose. Voilà. D'accord ? Ça, c'est la troisième opinion. D'accord ? Si vous voulez, on peut même mettre des étiquettes. Par exemple, qui a dit la première, qui a dit la deuxième, qui a dit la troisième, qui a dit la quatrième. D'accord ? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Pour ne choquer personne. Tout simplement. D'accord ? Mais enfin, c'est vrai, il y a, vous trouverez vous-même dans la littérature qui parle de ces choses-là, la littérature scientifique, la littérature philosophique, la littérature de Torah, vous trouverez les quatre opinions en question. Mais est-ce qu'il est bien clair que les opinions ne sont pas les mêmes? Vous avez bien compris? D'accord, génial. Ça, c'est les quatre premières. Je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Non, je l'ai affirmé, mais je ne sais pas encore expliquer pourquoi. D'accord? Maintenant, est-ce que vous pouvez, par exemple, discerner dans ces quatre opinions un dénominateur commun? Qu'est-ce qui est commun à toutes les quatre opinions qui ont été dites? Que la Torah et la science parlent de la même chose. Étant donné que la Torah et la science parlent de la même chose, il faut voir s'ils sont d'accord ou pas. Alors, soit ils sont d'accord, soit ils ne le sont pas. D'accord? Et de là vont découler les quatre opinions. C'est tout bête, hein? Mais non, le problème qui se pose est de savoir, est-ce que ce présupposé que la Torah et la science parlent de la même chose est vrai? C'est-à-dire, et c'est là, je reviens à ce qu'on a dit au début de notre pénétrante intervention, c'est est-ce que on a bien défini ce que c'est que la Torah, on a bien défini ce que c'est que la science? Ben, je vais vous dire, moi, ce que c'est la Torah et ce que c'est que la science. Hein? Voilà, je me propose. La science est une description de la réalité, du fonctionnement de la réalité. La Torah nous donne la signification de la réalité, le sens. Donc, par définition, affirmer qu'il y aurait contradiction entre les deux, ou même accord entre les deux, est une absurdité. Ça ne parle pas de la même chose. C'est comme si je disais, comment est-ce que vous pouvez être poète alors que vous êtes mathématicien? Ben, écoutez, je fais des maths, c'est vrai, mais je fais aussi de la poésie. Y a-t-il contradiction entre la poésie? Par exemple, je vais vous dire un truc tout bête. Combien font 1 et 1 d'après les maths? 2? 2, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Et d'après les poètes, les romantiques? D'après les romantiques, 1 et 1 font 1. D'accord? D'après les psychologues, 1 et 1 font 3. Vous comprenez? C'est très différent. Alors, est-ce que ça veut dire que quand le romantique dit que 1 et 1 font 1, il ne sait pas, il a manqué son bac de mathématiques? Non, il parle d'autre chose. N'est-ce pas? Bien qu'il emploie les mêmes termes, des chiffres. Mais c'est dans un cadre conceptuel, dans un univers conceptuel tellement différent que c'est pas adapté. D'accord? Donc il y a ici un problème, même d'affirmer que la Torah et la science sont d'accord, ça pose un problème. Voyez-vous? Par exemple, je vais vous donner pour cela un enseignement du Ramban. Rabbeinu Moshe Ben Nachman. Le Ramban, appelé Nachmanide. D'après Nachmanide, vous savez qu'il y a, dans son commentaire sur la Torah, il s'oppose véhément, avec force, quoi. Voilà. Il s'oppose à l'opinion selon laquelle les règles de la cacheroute seraient des règles médicales. D'accord? Certains ont écrit que les aliments qui ne sont pas cachers sont mauvais pour la santé et que c'est pour ça que la Torah les a interdits. Alors, le Ramban dit, si c'est vrai, ils ont fait de la Torah de Dieu un livre de médecine. Il est tout à fait possible que l'alimentation cachère soit saine, qu'elle ne l'est pas. On s'en fiche pas mal. C'est-à-dire, la raison de la cacheroute n'est pas médicale. Elle peut avoir une correspondance avec le médical. C'est comme par exemple, on vous dit, pourquoi est-ce que la circoncision se fait le 8e jour? Alors, très content, des rabbins vous diront, mais on a découvert que les coagulants sont sécrétés dans le corps qu'à partir du 8e jour. Et donc, il est dangereux de faire la circoncision plus avant parce qu'il n'y a pas de coagulant. Bon, c'est vrai, donc, il y a un parallèle, si vous voulez, entre une donnée médicale et la mitzvah de la Torah. Mais la mitzvah de la Torah, elle a une signification tout à fait différente. Par exemple, le Maharal de Prague vous dira le 8e jour, ben parce que 8, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Parce que le chiffre 7 mesure la nature, puisque c'est en 7 jours que le monde a été créé, et que le chiffre 8, donc, est au-delà de la nature, puisque la circoncision, c'est une transformation de la personne naturelle, eh bien, ça se fait donc le 8e jour. Si vous voulez, il y a quelque chose au niveau absolu qui est expliqué là. Maintenant, le fait que ce soit en correspondance ou pas avec une donnée médicale, n'a rien à voir, si vous voulez. D'accord? Jusque-là, vous me suivez?
Ça ne remet pas ni la science en question.
Ni la science, ni la Torah en question, ça parle d'autre chose. C'est comme, par exemple, un astronome. Je sais qu'un astronome, une fois, a dit à son petit garçon, « Écoute, il faut absolument que tu dors, même le soleil s'est couché. » Or, les astronomes savent très bien que le soleil ne se couche pas. N'est-ce pas? Mais l'astronome ne s'est pas trompé. Dans l'univers dont il parle, dans cette sphère-là, c'est vrai que le soleil se couche. D'accord ? Scientifiquement parlant, non. C'est autre chose. D'accord ? Donc, on pourrait dire même à la limite que quand la Torah parle de l'âge du monde, elle s'en fiche complètement de savoir si c'est une donnée scientifique ou pas, l'âge du monde. Par exemple, et là je vais être un peu plus précis, imaginez un gosse qui est un peu dissipé. Alors il y a un vieux monsieur dans le jardin, de... Comment est-ce qu'on appelait ça en France là ? Le square, voilà, au square. Alors le gosse, il fait des bêtises. Alors il y a un vieux monsieur avec sa canne qui dit « Quel âge as-tu ?» Alors, et ça veut dire quoi ça ? Quel âge as-tu ? Ça, est-ce qu'il lui demande de répondre « Écoutez, moi j'ai 9 ans et 2 mois ?» Non, c'est pas ça. C'est une remontrance. Si le gosse lui dit « Écoutez, j'ai pas ma carte d'identité ici », bah il s'est complètement mis à côté de ses ponts. D'accord ? Donc, il est évident que quand le scientifique se pose la question de savoir quel est l'âge du monde, sa question est une question physique. Quand la Torah se préoccupe de l'âge du monde, c'est une question morale. Et donc la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire, moralement parlant, sur le plan moral, pour nous, le monde a une signification à partir de, il y a 5700 quelques années, des poussières. Mais la question est une question physique, c'est une question qui sera étudiée en laboratoire, eh bien là, on pourra dire tant et tant de milliards d'années, ou même 100 ans, enfin, on s'en fiche pas mal. Voilà, d'accord ? Ça, c'est, si vous voulez, donc, il y a ici un problème dans les quatre premières opinions. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent ? Parce que je vais compliquer les choses. Ah, c'est très bien, voilà, j'espère être clair. La cinquième opinion dit exactement le contraire des quatre premières. La cinquième opinion affirme qu'il n'y a rien à voir entre la Torah et la science. Là, je vais vous dire le nom. C'est le professeur Yeshayahu Leibovitch qui lui dit « La Torah, ça fait partie de ce qu'on appelle Madaï Haruach, les sciences de l'esprit. La science, les sciences exactes, ça appartient à un autre domaine, la description de l'être, etc. Alors donc... De toute façon, ça n'a rien à voir, donc c'est de la bêtise d'essayer de mettre en rapport ou pas. Il a l'air de dire ce que je vous ai dit jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Hein ? On a l'impression que la cinquième opinion est équivalente à la mienne. Ben non. Je ne pense pas comme la cinquième opinion. Et là, je vais devoir un peu plus m'étendre sur la chose. L'opinion du professeur Leibovitch, bien que séduisante, pose un problème. C'est qu'il oublie une chose. Celui qui a créé le monde que la science étudie, que la science décrit, c'est le même qui a donné la Torah. Vous savez que la Torah a été donnée par le créateur du monde ? Vous savez quoi ? Ouais. Donc, il serait inconcevable, enfin en tout cas peu probable, que celui qui a donné la Torah, et qui l'a donnée dans le cadre de son monde qu'il a lui-même créé, n'ait pas mis un rapport entre les deux. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait... Il y avait deux projets différents du même créateur. Nous sommes des monothéistes, je crois. Or, le monothéisme implique qu'il y a une unité de tout être, pas seulement du créateur, mais de sa créature aussi. Donc, il est évident qu'il y a certainement un rapport entre la science et la Torah, mais pas le rapport dont on parlait les quatre premières opinions. Excusez-moi d'être lourd, vous avez compris ?
Bon, ouais.
Oui, tout vient de Dieu, et donc, il y a un rapport entre la science et la Torah. D'accord ? Bon, voilà. Donc, maintenant, qui se pose comme volontaire pour récapituler les cinq opinions ? Ben, ça sera moi. Vous voulez ?
Non, allez-y.
Ouais.
Allez-y, ça sera plus,
rapide ?
Ça sera plus rapide et plus clair.
Oh là là, quel arnava.
Non.
Bon. Donc, je reprends. La première opinion dit qu'il y a opposition entre la science et la Torah, et donc, il faut choisir la Torah. Contre la science. La deuxième opinion dit qu'il y a opposition entre la science et la Torah, donc il faut choisir la science contre la Torah. La troisième opinion dit que la Torah et la science disent la même chose, puisque la Torah dit comme la science. Et la quatrième opinion dit que la Torah et la science disent la même chose, puisque la science dit comme la Torah. La cinquième opinion dit que tout cela n'a rien à voir, la science et la Torah ne parlent pas du tout de la même chose, et donc il ne peut pas y avoir ni accord ni opposition. Hein ? C'est bien dit, hein ?
Exactement.
Vous l'auriez dit mieux ?
Non.
Non, ah, voilà, bon. La sixième opinion est la bonne. C'est celle du Rav Kook, qui a l'avantage d'avoir souvent raison, enfin presque toujours. La sixième opinion est formée de deux paragraphes, le premier et le deuxième. Le premier paragraphe, c'est « Il n'y a pas de rapport entre la science et la Torah, puisque la science et la Torah parlent de deux choses différentes. » Deuxième paragraphe, il y a un rapport très profond entre la science et la Torah, puisqu'ils émanent du même créateur. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, quel est le rapport entre la science et la Torah? C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport dans le sens qu'il ne faut pas être infantile, essayer à tout prix de mettre en accord des données scientifiques avec des données de la Torah. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même un rapport entre l'évolution de la science, c'est une réalité historique, la science évolue, et, si vous voulez, la providence, la Hashgacha, qui elle aussi veut que la science évolue dans certaines directions. Et c'est ça que nous allons devoir comprendre dans la deuxième partie de ce cours. Nous allons devoir comprendre quel est le rapport entre la science et la Torah. Voilà. Vous voulez ou pas? Ah, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir fini la pizza, fermer à la Miria et puis repartir. Mais donc, là, on va devoir rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la centralité du globe terrestre. D'abord, cette idée que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde. Et puis qu'en plus, la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais dans sa périphérie. Est-ce que ça a un sens, tout ça? On pourrait dire, du point de vue de la Torah, on s'en fiche pas mal. La Terre ronde ou plate, la Torah est la même. Qu'il y ait un système solaire ou un système terrestre, on s'en fiche pas mal, la Torah reste la même. Mais ce n'est pas si simple que ça. Imaginez-vous, par exemple, qu'au début de l'histoire, ou disons ce qu'on appelle la période préhistorique, l'homme ait eu tout de suite la connaissance, comme ça, tout de go, sans le prévenir. On lui aurait dit, tu sais, la Terre est ronde, et elle avance à une vitesse incroyable dans l'espace. Qu'est-ce qu'aurait fait l'homme préhistorique? Il se serait accroché aux arbres. Il aurait eu peur. Ça aurait déstabilisé tout son monde. Vous comprenez? Donc, c'est l'Hashgacha divine qui a voulu que l'homme ne sache pas la vérité sur le sol sur lequel il marche, pour sauver sa stabilité mentale. Parce que, à l'époque, l'homme n'avait pas encore développé la possibilité de conceptualiser les choses. C'est-à-dire, ce qu'il sait, eh bien, c'est immédiat, c'est physique. Donc, si la Terre est ronde, je vais glisser. Et si elle est emportée à toute vitesse, je vais tomber. Je vais décoller. Donc, il faut s'accrocher aux lianes. Vous vous rappelez de Oncre? C'était il y a très longtemps, ça. Oncre. Ça vous dit quelque chose? Il y avait une bande dessinée comme ça sur les hommes préhistoriques. Enfin bon, c'était il y a très longtemps. Oui, vous rappelez? C'est dans Mickey. Oui, dans Mickey. Ouais. Bon. Ah, c'était chouette. Il y avait une époque où les bandes dessinées étaient encore valables. Bon. Là, il y a des classiques. Ça, c'est donc, par exemple, un premier exemple. Demain, par exemple, pour ce qui est de la centralité de la Terre, c'est-à-dire très tôt déjà, les hommes ont compris que la Terre était ronde. C'est déjà, il y avait un philosophe... Non, bien avant Galilée, il y avait un astronome du nom de Hipparque. Oui, Hipparque, celui du stationnement. Oui, non, Hipparque, déjà, c'était à l'époque de Ezra Asopher, c'est-à-dire en l'an 500 avant l'ère chrétienne déjà, qui avait découvert que la Terre était ronde. Aristote aussi le savait. Enfin bon, que la Terre est ronde, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas au centre du monde. Très longtemps, on a cru qu'elle était au centre du monde. Il y avait quand même quelques astronomes qui ont pensé le contraire, mais enfin très vite, ils ont été évacués. Jusqu'à Galilée, Copernic, tout ça. Est-ce que c'était important? Eh bien, le Rav Kook dit à nouveau, mais bien sûr, c'est très important que les hommes se soient trompés là-dessus. Parce que si je me crois au centre du monde, qu'est-ce que ça me fait? D'abord, ça me fait de l'orgueil, c'est vrai, mais autre chose, ça me fait responsable. Il y a responsabilité. Parce que si je suis le centre du monde, donc le monde dépend de moi. Tandis que si, trop tôt, les hommes avaient su que la Terre n'était pas au centre du monde, ça aurait introduit le désespoir. Ah, je ne signifie rien de toute façon. Donc il a fallu que pendant un certain temps, s'établisse dans l'homme la responsabilité morale, le sens de la émouna et tout le reste. Et puis un jour, on dit, voilà, ben ça y est, tu es assez mûr maintenant pour savoir qu'en fait, tu n'es qu'une poussière dans un océan de matière. Et alors, ça te donne de la ranava. Sans détruire pour autant la Yirat Shamay, la Imuna et tout le reste. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a également un ordre là-dedans. Il en est de même pour ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. L'évolution, par la théorie d'évolution, sur l'origine des espèces, Darwin, Lamarck, tout le reste, c'est l'idée de la théorie évolutionniste est une idée intéressante. Qu'est-ce que disent les évolutionnistes ? Eh bien, que la marche de la vie se fait graduellement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il agit, il n'agit pas par un coup de baguette magique. Il ne dit pas « pip » et brusquement l'homme apparaît. Mais il y a, si vous voulez, une énorme machine à l'échelle du cosmos tout entier qui permet un jour à l'homme d'apparaître. Voyez-vous ? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une sorte de chaîne qui lie tous les êtres entre eux depuis la première explosion, celle du Big Bang, par exemple, si on admet cette théorie, et ça arrive jusqu'à... on va prendre un exemple pour ne fâcher personne. Voilà, depuis le Big Bang, eh bien, il y a toute une chaîne qui amène jusqu'au Rabbi Lubavitch. Vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Je dis ça, s'il y a des rabbins ici, par exemple, il peut y avoir autre chose. Enfin, disons qu'il y a... les éléments de l'être sont liés. Maintenant, cette manière de penser des choses, de voir qu'il y a une évolution, ce qu'on appelle en hébreu une ishtalshelut, est-ce qu'on n'a pas trouvé ça quelque part dans le judaïsme ?
C'est des ishtalshelut, c'est les kabbalistes.
Chez les kabbalistes.
Aussi.
Non, mais avant Rabban. Chez les kabbalistes, de manière générale. C'est-à-dire chez les mekoubalim, les sages de la Kabbalah, ce mode de pensée qui fait qu'une chose est enchaînée dans l'autre et apparaît à partir d'une chose qui l'a précédée, bah, c'est une chose courante chez les kabbalistes. Mais qui n'était pas courante chez les tout commun du peuple. C'est-à-dire, quand vous demandez à un juif habituel, par exemple, il y a 500 ans, vous lui dites, est-ce que Akadosh Baruch Hu, comment il fait pour créer ? Ben, il dit, c'est très simple, Akadosh Baruch Hu, il dit, que ce soit, et c'est. Il n'y a que les kabbalistes qui pensaient un peu autrement. Grâce à la théorie de Darwin, l'idée d'une évolution est devenue courante. Donc, le Rav Kook nous dit, il faut remercier le darwinisme d'avoir permis à la multitude de comprendre des idées, de s'habituer à des idées qui, jusqu'à présent, n'étaient connues que des kabbalistes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la théorie darwinienne est vraie ou pas ? Non. On s'en fiche pas mal de savoir si elle est vraie ou pas. Mais c'est intéressant de voir que l'idée est devenue courante, l'idée de la ishtalshelut est devenue courante grâce au darwinisme. D'accord ? Évidemment, il serait préférable que la théorie darwinienne soit vraie. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un parallèle entre le monde biologique et le monde spirituel. Mais même si par malheur, un jour, il est prouvé que Darwin s'est trompé, nous continuerons à croire en la Torah quand même. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? D'accord ? Je pense donc que c'est bien clair. Il y a donc, si vous voulez, toute une hashgacha qui fait que le développement scientifique est apparu de la manière dont il est apparu. Vous voyez bien qu'Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Des découvertes apparaissent au moment où elles doivent apparaître. En fait, cette idée-là, ce n'est pas le Rav Kook qui l'a formulée le premier, c'est déjà dans le Zohar. Vous rappelez de ce que dit le Zohar dans la paracha de Noir, n'est-ce pas ? Vous rappelez, n'est-ce pas ? Oui ? Ah, vous les citez ? Un trou, hein, brusquement, c'est ça. Ah, oui. Non, ben, c'est très simple. Le Zohar dit que viendra un moment où dans le monde s'ouvriront les sources de la sagesse. Les sources de la sagesse vont s'ouvrir en haut et en bas, dit le Zohar, et ça sera le moment où Israël reviendra sur sa terre. Et le Zohar donne la date. Hein, merveilleux, hein ? Quelle date donne le Zohar pour l'ouverture des sources de la sagesse ?
C'est pas 1840.
1840, très bien. C'est-à-dire l'an 600 du 6e millénaire, c'est-à-dire Shnat Tavresh. 5600, c'était 1840. En Goy, ça donne 1840. C'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de télémarketing. Ça n'existait pas. Non, c'est vrai, hein, je rigole pas. Ça existait. Et donc, à partir de 1840, dit le Zohar, c'est le moment où la sagesse va s'épancher dans le monde et ça sera le moment du retour. Effectivement, ça s'est réalisé. On voit très bien qu'à partir de 1840, il y a eu un développement extraordinaire, inégalé, pendant toute l'histoire, sur le plan technologique, philosophique, et tout le reste, démographique. Et puis, C'est également le moment où a commencé l'entreprise du retour d'Israël sur sa terre, qui par la suite est passée par le sionisme et tout le reste. Mais enfin, tout ce mouvement-là, d'ailleurs, depuis les élèves du Gaon de Vilna, qui a finalement amené au retour sur notre terre. Ça veut dire quoi, ce que dit le Zohar? C'est simplement de la magie pour nous dire, vous savez, on connaît à l'avance les dates. Non. Ça fait partie d'un programme. C'est-à-dire que le Zohar veut mettre en parallèle les deux développements, le développement scientifique et le développement de la vie intérieure qui est portée par Israël. Quel est le rapport? Je vous donne un exemple tout simple. La technologie qui s'est développée avec cet épanchement de sagesse, ça a fait quoi? Ça a fait que le monde est devenu petit. C'est-à-dire que l'Alaska et la Rhodésie se retrouvent dans mon salon, par Internet, par exemple. Et ça veut donc dire que l'événement du retour d'Israël sur sa terre prend une portée universelle. Tandis que si, par exemple, l'État d'Israël avait été fondé en l'an 1000, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait combien de temps? 1600 ans, c'est ça? En l'an 1000, l'État d'Israël aurait été fondé. Vous auriez demandé à un Patagon qu'est-ce qu'il en pense. Le Patagon, il s'en fiche pas mal. Il n'a jamais entendu parler du Proche-Orient. Il ne sait même pas qu'il y a des Juifs dans le monde. Et de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est savoir est-ce qu'il y a du poisson ici. Où est-ce qu'on trouve du bon poisson? Le pescado n'est pas fléchon. Et c'est ça qui le préoccupe. C'est-à-dire, il n'y a aucune conséquence à un événement dans un coin de la planète sur le reste de l'univers. Tandis qu'aujourd'hui, ben au contraire, vous faites pchit-pchit avec votre aérosol, tac, ça frappe l'ozone, la couche d'ozone, et ça met en danger les pingouins en Antarctique. Et même pour revenir à l'État d'Israël, si vous voulez, par exemple, troubler la paix du monde, par exemple, faire monter le prix du pétrole, il y a un truc très simple. Vous diffusez sur Internet que l'État d'Israël a mis une caravane avec des mitnachalim sur le Harabait. Même si ce n'est pas vrai, d'ailleurs. Deux caravanes. On est immédiatement, conseil de sécurité, tout ça, intifada. Ça veut dire que l'événement a une portée universelle. Maintenant, cet événement de portée universelle, c'est parce que la parole de Dieu est également universelle. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu veut se révéler, il a un message qui concerne Israël. Mais ce message qui concerne Israël, il concerne l'humanité, n'est-ce pas? Puisqu'on dit « Venivrechu becha kol mishpechota adama »« Par toi seront bénies toutes les nations de la terre ». Donc il y a un rapport, vous voyez, entre le développement scientifique et le retour d'Israël. Mais ça, c'est encore seulement au niveau technologique. Mais je veux aller encore un peu plus loin. Vous avez fait tous de la physique, n'est-ce pas? Bon. Vous savez qu'est-ce que c'est que la théorie du champ, qu'on dit? Non, pas du champ magnétique. Non, ça démoura, comme on dit en français. Oui, le champ unique.
Le champ gravitationnel?
Non, pas du... Bon, je vais expliquer de quoi il s'agit. Vous savez... Oui, uniforme. Ouais, c'est ça. Bon, comme tu as dit. À tes souhaits. Et donc, vous savez qu'il y a une tendance qui se développe depuis les origines de la science physique jusqu'à nos jours. C'est une tendance à l'unité. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on s'en fichait pas mal qu'il y ait des règles de physique qui sont valables pour le monde entier. On acceptait des règles de physique différentes pour chaque milieu. Par exemple, ça ne dérangeait... À l'époque, les astronomes pensaient que les lois physiques des étoiles sont différentes des lois physiques de la Terre. Par exemple, ce qui était admis, c'est que le mouvement naturel sur Terre est en ligne droite. Exemple, vous voyez cet objet? Je le lâche. Il est tombé en ligne droite. Vous avez remarqué? Eh bien, d'après les physiciens de l'Antiquité, eh bien, ça veut dire que le mouvement naturel sur Terre est en ligne droite. Mais les mêmes physiciens regardaient les étoiles. Et ils ont vu que ça faisait des cercles. Ils se sont dit, ça veut donc dire qu'au ciel, le mouvement naturel est circulaire. D'accord? Et on disait, ça ne vous embête pas que ce ne soit pas la même règle? Non, pas du tout, c'est sur la Terre, c'est sur aussi au ciel. D'accord? Ce n'est que très tard que la science a évolué dans le sens de lois universelles. Par exemple, Newton, vous connaissez l'histoire de Newton? C'est celui qui a vu une pomme qui était tombée sur sa tête, en écrasant une coccinelle au passage. Et quoi, c'est pas vrai?
C'est dans la rubrique à vrai.
C'est quoi la rubrique à vrai? C'est Gottlieb. Qui c'est Gottlieb? Non. Ah bon, bien sûr. Bon, en tout cas, le fait historique est qu'il a vu une pomme tomber, et alors il s'est dit, ben, est-ce qu'on se fiche de ma pomme ? Non. Et certainement, il y a ici une règle universelle. Il a tout de suite fait des équations, il a compris qu'il y avait un rapport inverse entre deux masses, etc. Il a compris, il y a la loi de la gravitation universelle. C'est-à-dire que, petit à petit, la science va vers l'unité. Aujourd'hui, bon, il y a de plus en plus de phénomènes qu'on essaye de ramener à une seule équation. Aujourd'hui, on est arrivé, disons, à considérer qu'il y a simplement, au niveau de la physique, hein, je ne parle pas au niveau des autres sciences, au-delà de la physique, il y a quatre forces en tout et pour tout qui expliquent l'ensemble des phénomènes, qui sont la force de la gravitation, la force électromagnétique, la force comment ça s'appelle, nucléaire forte et la force nucléaire faible. Voilà. Ce sont ces quatre machins. On cherche aujourd'hui ce qu'on appelle le champ gravitationnel uniforme, c'est ça ? Ouais. On essaie d'unifier la théorie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait unifier la théorie ? Parce qu'il y a une intuition chez les scientifiques que tout va vers l'unité. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Albert Einstein à qui on a demandé « D'où est-ce que vous savez, professeur Einstein, qu'il y a de l'unité dans les lois de l'univers ?» Réponse d'Einstein, « Eh bien, c'est une profession de foi. » En d'autres termes, c'est une foi monothéiste. Donc, on peut dire qu'une certaine manière, la science va dans cette direction d'expliquer scientifiquement une vérité qui est connue par les prophètes déjà, qui est « Hachem Eloheinu, Hachem Echad ». D'accord ? C'est-à-dire que il y aurait quand même, dans le développement de la science, quelque chose qui touche au Maaseh Merkava, au grand secret de la Torah, etc. Mais pas en tant que preuve que la Torah aurait raison sur tel ou tel point, parce que ce n'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit ici, disons, d'intuition très, très profonde qui a été connue simplement de quelques initiés chez les étudiants de la Torah, qui finalement viennent apporter du grand nombre. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une Hashgacha particulière qui met en rapport la science et la Torah. Jusque-là, c'est la sixième opinion. Vous avez compris ? Donc, la sixième opinion, donc, je reprends, dit que d'une part, il n'y a pas de rapport au niveau des faits entre la Torah et la science, mais qu'il y a un grand rapport au niveau des conceptions fondamentales. Voilà. Jusque-là, vous me suivez ? Là, je vais continuer. Hein. Ça, c'est donc le deuxième volet. Vous êtes sûr, vous avez compris ? Voilà, vous n'êtes pas trop fatigué ? Interlude, vous voulez ? Une deuxième pizza, allez, leur donner ? Non ? Bon, d'accord, alors je continue. Je voudrais étudier avec vous en quelques minutes. Oui, oh, il nous reste encore assez. Oui, pas mal de temps. Il nous reste presque un quart d'heure, n'est-ce pas ? Je me trompe ? Non, non. Un petit quart d'heure, comme ça. Expliquer un passage de la Torah, vous voyez ? Hein ? Passage de la Torah. Bereshit, chapitre 1, verset 24. Hein? Bereshit, chapitre 1, verset 24. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Allez, essaye. Vayomer Elohim. Ah, c'est pas trop difficile, n'est-ce pas ? Vayomer Elohim. Totse haaretz. Nefesh Haya. Ça veut dire, Dieu dit que la terre suscite une âme vivante, Behema, des animaux, Varemes, des reptiles, Vehaito Eretz Lemina, ainsi que des bêtes des champs, selon leurs espèces, Vayichen, il fut ainsi. Donc, je reprends. Dieu demande à la terre, c'est-à-dire à la nature, de produire combien d'êtres ? Combien de sortes ? Quatre. Je reprends. Non, non, je vais les compter avec vous. Totse Haaretz. Premièrement, Nefesh Chaya. Deuxièmement, Behema. Troisièmement, Remes. Quatrièmement, Chaito Eretz. Donc ça fait combien ? Ça fait trop froid ? Pourquoi vous dites ça ? Ben Nefesh Chaya, vous dites c'est un titre.
Bon, c'est déjà assez général. C'est, tout
c'est général. Donc vous dites que c'est le général et le particulier. N'est-ce pas ? C'est ce que vous affirmez.
C'est
ce que vous pensez. Non, je ne suis pas contre. Il y a même des commentateurs qui ont été dans votre sens. Donc je ne vais pas dire que vous avez tort. Mais on va voir si vous avez raison. En fait, vous n'avez pas raison, mais c'est à cause du verset d'après. Non, je vais vous dire tout de suite. Le verset 25, hein, là c'est le verset 24. Alors maintenant, vous allez passer au verset 25, qu'a fait ? Vous allez voir ce qui s'est passé véritablement. Vayaras Elohim, et Dieu fit, et Hayata Aretz Limina, Vet Abehema Limina, Vet Remes Adama Limineu, Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bon. Ça veut dire que dans la réalisation du projet, la Torah ne nous donne que trois éléments et ne reprend pas l'expression Nefesh Chaya. Comment ?
Ça, ça peut être vrai, puisque le 26e, ce qu'il a dit avant, ça ne veut pas dire qu'il va le créer tout de suite. Il peut très bien créer trois. Et le,
ah, mais donc, non, vous avez raison. Mais ça prouve donc que le Nefesh Chaya n'est pas la généralité des trois d'après. C'est-à-dire que j'essaie de prouver ce que cette sympathique dame a essayé de dire. Elle a voulu dire que Nefesh Chaya n'était qu'une généralité et que les trois autres étaient le détail. Alors, si c'est vrai que c'est généralité et détail, la Torah aurait dû reprendre l'expression. Ça prouve donc qu'il y a quatre choses. C'est ça que je voulais prouver pour l'instant. D'accord ? C'est-à-dire que le Nefesh Chaya est une quatrième chose. Mais enfin, vous avez remarqué qu'il y a quand même ici un décalage entre le projet d'Akadosh Baruch Hu et la réalisation. Dans le projet, il est question de quatre sortes d'êtres, tandis que dans la réalisation, en tout cas au verset 25, il n'y a eu que trois sortes d'êtres. C'est-à-dire que ce qui n'est pas sorti, c'est le Nefesh Chaya. Ça a râpé. Ça n'a pas marché. Dieu a voulu quatre, et finalement il y a eu trois. Ça veut dire qu'il y aurait une incapacité de la nature de créer cet être qu'on appelle le Nefesh Chaya. C'est quoi cet être que la nature est incapable de produire ? Hein ? L'homme ? D'où est-ce que vous avez tiré ça ? Nefesh Chaya, c'est l'homme. Où est-ce que vous avez été chercher tout ça ? Prouvez-le. Vous avez raison, mais prouvez-le.
Parce qu'il y a cinq niveaux, il y a Nefesh Chaya.
Oui, mais ça, la Torah, hein, le lecteur de la Torah, il n'a pas encore lu les kabbalistes. Alors, il faut prouver ça dans le texte. Presque. Vous étiez en fait dans le chapitre Bet, verset Zahin. Vayehi ha'adam le Nefesh Chaya. N'est-ce pas ? Donc, lorsque finalement Dieu a modelé de la terre, etc., il a insufflé un souffle de vie, et puis l'homme est devenu Nefesh Chaya, ben Nefesh Chaya, c'est l'homme, n'est-ce pas ? Ça veut donc dire que la nature était capable de susciter tout, sauf l'homme, le Nefesh Chaya. Mais attention, si c'était vraiment vrai que la nature n'est pas capable de susciter l'homme, alors pourquoi est-ce que la Torah a employé une expression poétique, Nefesh Chaya, et n'a-t-elle pas employé l'expression Adam, qui veut dire l'homme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, la Torah aurait dû dire Totse Haaretz, Adam, Behema, Varemes, etc.
Adam, Zadama. Donc,
Adama, donc,
pas
produire. Ah, très fort. La prochaine fois, c'est vous qui donnez le cours. Ah oui, non. C'est-à-dire que ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas l'ensemble de l'homme que la nature ne peut pas produire. La nature, elle peut produire un homme. En tout cas, une grande partie. La preuve, c'est que nous sommes tous faits de pizza. C'est-à-dire, la pizza, elle vient de la nature. Nous en sommes composés. C'est grâce à la pizza que nous pouvons écouter ce cours. Et donc, non, c'est-à-dire qu'il y a un rapport quand même entre l'homme et la nature. Ce que la nature ne peut pas créer, c'est un élément de l'être humain, celui qui lui donne sa conscience morale, qu'on appelle Nefesh Chaya. Et ce, pourquoi ? Parce qu'il y a dans la conscience morale quelque chose qui est totalement opposé à la nature. La nature est déterministe, il n'y a pas de liberté dans la nature. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de morale. Donc, s'il y a en l'homme un élément moral, c'est donc qu'il y a une étincelle de liberté qui lui vient d'en dehors de la nature, et ça, la nature ne veut pas la créer.
Pourquoi il a demandé à Dieu ?
Très bonne question. C'est pour créer un idéal. C'est-à-dire, toute l'histoire de Maaseh Bereshit, t'as qu'à voir, c'est toujours comme ça. Dieu dit quelque chose, ça ne marche pas. Et il faut comprendre pourquoi. Mais en tout cas, on voit qu'ici qu'il y a un élément de l'être humain qui lui demande une intervention spéciale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est le verset 26. Que dit le verset 26 ? Vayomer Elohim naase Adam. Alors Dieu dit, puisque c'est comme ça, faisons l'homme. C'est-à-dire, faisons, ça veut dire quoi faisons ? C'est au pluriel, n'est-ce pas ? Naase, c'est un pluriel. C'est-à-dire, moi et la nature, nous allons faire ensemble. C'est ce que dit d'ailleurs le Ramban. Quand dit Naase, le Ramban, dans ce commentaire de la Torah, dit, c'est Dieu qui parle de lui et de la terre. Nous allons faire ensemble l'être humain. C'est-à-dire, la partie, pourrait-on dire, animale et même intellectuelle de l'homme peut avoir son origine dans la nature, et ça, ça serait expliqué par exemple par la théorie darwinienne, mais il y a un élément qui lui vient de l'extérieur et qui ne peut pas être donné par l'homme, par la nature, et ça, c'est la conscience morale, ça vient de sa neshama, ça vient d'en haut. Nishmat Hayim, Vaye Adam et Nefesh Chaya. Jusque-là, vous avez compris ? D'accord. Vous avez compris que quand je vous donne cette interprétation du texte, ce n'est pas une explication scientifique de ce que dit la Torah. C'est-à-dire, la Torah s'en fiche pas mal de savoir, enfin, elle ne nous donne pas d'information pour savoir de quelle manière, à partir de la nature, l'homme a été formé. On nous dit « Afar mina Adama ». D'accord. Mais comment est-ce que ce « Afar mina Adama » a donné l'homme ? Ben, la Torah n'en parle pas. Ça a pu prendre des millions d'années. Ça, c'est pas ça dont il est question dans la Torah. Voyez-vous ? C'est-à-dire, il y aurait une erreur à de penser que le texte de Maaseh Bereshit nous enseigne ce que c'est que quelles sont les données scientifiques de la création du monde. Hein, voilà, c'est une idée comme ça. Je vous lance. C'est important de le savoir. Ça, c'est bon, savoir comment il faut lire la Torah. Évidemment, il y a un sujet dont je n'ai pas traité avec vous, dont je n'ai pas traité ici. C'est les contradictions éventuelles qu'il pourrait y avoir entre la vérité historique, l'homme dans l'histoire, selon la Torah et selon la science. Alors là, il peut y avoir opposition. Par exemple, vous savez que selon les Juifs, la Torah a été donnée au mont Sinaï. Vous savez ça, hein ? La Torah a été donnée au mont Sinaï. Et les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte par voie miraculeuse et tout le reste. Hein, qu'il y a eu après la conquête du pays de Canaan, il y a eu des prophètes, tout ça. Bon. Eh bien, ces événements-là, nous autres, les élèves de Moshe Rabbeinu, nous affirmons que ce sont des événements historiques. Il y a ce qu'on appelle une pseudo-science, qu'on appelle la critique biblique, qui, elle, remet en question ces choses-là. Alors, on peut dire qu'à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir opposition entre la Torah et ce que certains académiciens enseignent, mais alors là, il faut être bien net. La critique biblique, ce n'est pas de la science. La critique biblique est une pseudo-science pour une raison très simple. Et là, je pense qu'il est quand même important d'avoir cette petite remarque, bien que c'est un peu en dehors du sujet. La critique biblique est une science fondée sur un présupposé non scientifique, sur un présupposé non prouvé, qui est que la Torah n'est pas révélée. Ça, ce n'est pas une donnée scientifique. C'est-à-dire, le point de départ du critique biblique, c'est étant donné que la Torah n'est pas révélée, alors il nous reste maintenant à déterminer qui l'a écrit et pour quelle raison. N'est-ce pas ? Mais le point de départ n'est pas prouvé. Donc il y a ici un mensonge au niveau scientifique pur, et ça, c'est bon à savoir. Avez-vous des questions sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent ? Hein ? Avant l'interrogation, bien sûr. L'interrogation, vous savez quoi ? Vous êtes tellement sympathique que vous allez en être dispensé. Maintenant, vous pourrez jouer dans la cour. D'accord. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, eh bien, sur ce, je lève la séance. Shalom, à bientôt.